J'aimerais partager avec vous une pensée. J'ai donné un titre au message de ce soir, un bon itinéraire. Un bon itinéraire. Combien savent que quand on veut se rendre quelque part, il faut avoir un bon itinéraire? Ça évite de perdre du temps, ça évite des complications, ça évite des disputes même, d'avoir le bon itinéraire. Et au travers d'un itinéraire que va employer Élie et Élisée, nous allons trouver un encouragement pour nous ce soir et peut-être une remise aussi en question sur certains points. Je vous invite à prendre avec moi 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois au chapitre 2. Et au verset 1er, nous allons lire un passage un petit peu long jusqu'au verset 14, 14 versets. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et puis, 1 Roi, chapitre 19, au verset 19, juste les trois derniers chapitres du chapitre 19, 1 Roi 19. Élie partit de là, il le trouva Élisée, fils de Chapha, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courit après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen. Amen. Dans notre première lecture, nous voyons donc la fin d'Élie qui va monter au ciel. Et puis dans la seconde, nous voyons le début du ministère d'Élisée qui est appelé par Élie. Élisée qui va tout quitter. Ses parents, il va quitter son travail, il va quitter son confort, il va quitter ses habitudes. Il nous dit qu'il va offrir en sacrifice ses bœufs, qu'il va offrir en sacrifice l'attelage, qu'il va faire cuire tout cela et qu'il va tourner une page de sa vie. Voici une nouvelle page justement commence pour Élisée. Il nous est dit que justement le manteau d'Élie va être jeté sur Élisée dans le sens où il y a un appel qui retentit pour Élisée. Et n'est-ce pas ce que nous avons vécu dans nos vies ? Nous avons tourné une page, nous avons connu un appel de Jésus-Christ, nous avons connu ce revêtement. On voit que d'abord le revêtement va être là dans ce premier passage et par la suite il va prendre pour la seconde fois le manteau d'Élie sur ses épaules. Mais là, il est au début de son ministère, au début de son appel et c'est ce que nous avons dû vivre en tout cas. L'abandon du matériel, l'abandon des choses terre à terre. Non pas qu'il ne faille plus quitter son travail, abandonner certaines choses, bien au contraire, mais ces choses-là deviennent secondaires. Autrefois, c'était la priorité pour Élisée, mais maintenant, c'est secondaire. Il répond à l'appel de Dieu. Amen.
Amen.
Il laisse son ancienne vie. Et puis, le voyage commence. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, nous voyons Élie qui part de Gilgal pour aller à Bethel, Gilgal, qui est un endroit particulier pour le peuple hébreu. Gilgal, où le peuple va commencer sa marche dans le sens où il va rentrer en possession du pays promis. Voici 40 ans qu'il tourne dans le désert, il traverse le Jourdain, ils vont à Gilgal, et par Gilgal, il va se passer quelque chose d'important pour le peuple. Il va y avoir une remise en question, ou plutôt il va y avoir une nouvelle circoncision qui va être là pour le peuple. Gilgal, un endroit où le peuple va justement connaître la circoncision. Et la circoncision, bien sûr, nous fait penser à la coupure dans nos vies, des choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans le pays promis. Dans Josué 5,9, il est dit « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, j'ai roulé la honte. Aujourd'hui, j'ai enlevé ta honte, peuple élu. Aujourd'hui, j'ai enlevé ta honte. Pourquoi ? Parce que tu es passé par la circoncision. Parce que tu es passé par la repentance. » Et la circoncision nous fait penser à cette repentance, à l'abandon de son ancienne vie, à la repentance qui va être engendrée, qui va être suivie par la nouvelle naissance. Romains 2,29 nous dit « Mais le juif... c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Amen. C'est celle du cœur, des choses qui ont été coupées en nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés par Gilgal. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette étape dans notre vie, la repentance, et nous avons accepté Jésus. Amen.
Alléluia.
Colossiens 3,5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Ces choses qui... semblables au péché, qui englobent le péché, peuvent si facilement parfois nous envelopper, même si nous sommes passés par Gilgal. Gilgal qui signifie justement rouler, l'opprobre qui a été roulé, la honte qui a été roulée, le péché qui a été enlevé de nos vies, n'est-ce pas ? Ce qui réjouit nos cœurs. Amen.
Oui.
Gilgal, voyez-vous, c'est un endroit où plusieurs fois Josué va revenir. Il va repasser par Gilgal, notamment dans le chapitre 10 du livre de Josué. Il va y avoir le jour le plus long, vous vous rappelez de cette histoire ? Où les pierres vont tomber sur Libna, et la victoire faite par les pierres va être plus importante que les morts tués par l'épée. Dieu va bénir son peuple et accorder une victoire sur ce dieu-là, Gabaon. Et suite à cela, il y a un retour à Gilgal. Dans nos vies, nous avons besoin parfois de retourner à Gilgal, de retourner à ces choses peut-être qui peuvent paraître comme primaires, mais tellement importantes. La repentance, c'est vrai que c'est un jour. Mais ce n'est pas qu'un jour la repentance.
Oui.
Très souvent, j'ai besoin de revenir et de demander pardon s'il y a peut-être la colère qui prend le dessus, s'il y a peut-être des envies qui prennent le dessus, s'il y a peut-être certaines choses qui ne devraient pas être là dans ma vie. J'ai besoin de demander pardon. Parfois, on s'imagine qu'en laissant passer du temps, parfois on s'imagine que si on a fauté, si on a péché, si on laisse Dieu pendant 2-3 jours, peut-être qu'il va oublier. Et on croit que dans ce laps de temps, le pardon va être effectif. Qui a jamais vécu cela ? Moi, j'ai vécu ces choses comme ça. J'avais fauté, je suis tombé, et puis je me suis dit, bon, ben, pendant 2-3 jours, je vais peut-être mettre une distance entre Dieu et moi pour que, quelque part, il puisse me pardonner. Et puis, il y a la culpabilité qui prend le dessus. Et la Bible nous dit de ne pas mettre en oubli la purification de ses anciens péchés.
Mmh.
Ce n'est pas le temps qui va ôter l'opprobre, ce n'est pas le temps qui va ôter le péché, mais c'est la repentance. Et dans nos vies, on a besoin de demander pardon, peut-être parce qu'une dispute a éclaté dans un couple, parce qu'on a été trop sévère avec ses enfants, parce qu'il y a des compromis dans nos vies. On a besoin de passer par Gilgal bien souvent dans nos vies, et ce n'est pas une honte, c'est bien nécessaire. Amen. Première étape, Gilgal. Élisée réfléchit, et... alors que Élie lui dit « Reste ici, je dois aller à Gilgal ». Élisée réfléchit, lui dit « Mais attends, tu m'as appelé à ta suite. C'est pas pour maintenant me mettre de côté. C'est pas pour maintenant me séparer de toi. Je vais aller à Gilgal. Ton âme est vivante et l'âme de l'Éternel est vivante. Je vais traverser le Jourdain avec toi. Je vais venir avec toi. Bien sûr, le Jourdain nous fait penser à ce monde qui est resté derrière nous. Quand on traverse le Jourdain, il y a Gilgal. Et en même temps qu'on traverse le Jourdain, on laisse notre vie derrière nous et on va voir par la suite qu'on va retraverser le Jourdain. Mais avec un état de cœur différent, avec une volonté, avec une vision transformée par l'itinéraire, par le bon itinéraire. Amen. Amen. Gilgal. Ensuite, il nous est parlé de l'alliance. Parce qu'une fois qu'on s'est repenti, bien sûr, automatiquement, il y a cette alliance qui se fait entre Dieu et nous. Oui. Dieu nous a pardonné et il dit « Je suis avec toi ». Amen. Genèse 28, 15. Bethel, le lieu de l'alliance. Dieu qui va parler à Jacob et qui va dire « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. » Amen. Ces paroles, nous pouvons dire « Amen » et nous disons « Amen », mais parfois, est-ce que nous les réalisons vraiment ? Parfois, c'est vrai, nous savons, Seigneur, nous avons presque tout laissé pour toi. Nous t'avons suivi, Seigneur Jésus, et nous avons l'impression parfois que tu as oublié ma situation, que tu as oublié mes temps d'épreuves, de difficultés. J'ai l'impression, Seigneur, que ta présence, parfois, n'est plus aussi pertinente qu'au début. J'ai l'impression que pour m'approcher, il faut que je fasse des pieds et des mains. Autrefois, ta présence était tellement palpable dans ma vie, mais maintenant, c'est peut-être plus difficile. Je suis avec toi, Dieu dit à Jacob, et ceux qui dit à Jacob, il nous le dit aussi ce soir.
Amen.
Amen. Bethel, le lieu de l'alliance. L'échelle qui dit à Jacob, je te donnerai ce lieu sur lequel tu te tiens. Est-ce que Dieu a menti ? Non. Ça a pris du temps, hein ? Avant que le peuple revienne, avant que le peuple possède ce pays. Ça prend du temps, mais les promesses de Dieu peuvent prendre du temps, mais l'essentiel, justement, c'est qu'elles s'accomplissent. Et ce qu'il y a de bon dans le fait qu'elles prennent du temps, c'est qu'on dépend de lui. Amen. Tant qu'elles ne sont pas accomplies, on dépend de lui, de son accomplissement. Amen. Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Qui veut dire maison de Dieu. L'alliance avec la maison de Dieu. C'est vrai, avec la maison de Dieu, on pourrait dire avec l'Église, mais également l'alliance avec ma maison à moi. Ma maison, c'est la maison de Dieu. Et même la Bible va plus loin dans le sens où la maison de Dieu, c'est nous-mêmes. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette alliance qui a été contractée. Amen. Oui, je suis une habitation de Dieu en esprit. Élisée aurait pu dire encore, très bien, je reste à Gilgal, tu me le demandes. Il aurait pu être soumis à Élie, mais cet ordre résonne dans son cœur. Ça résonne comme une proposition, en réalité comme un test. On pourrait dire comme un défi, comme un défi. Dieu teste notre foi. Et Élisée, au lieu de dire, bon, très bien, j'ai pour la première fois, quelque part, contrecarré ton ordre et je suis venu à Gilgal. Maintenant, tu me demandes de rester à Gilgal et de ne pas aller à Bethel. Je ne vais pas aller plus loin, je vais rester à Gilgal. Mais encore une fois, il dit non, je viens à Bethel. Encore une fois, je suis attaché à toi. Parce que Dieu éprouve notre foi. Amen. Amen. Et c'est une bonne chance que notre foi soit éprouvée. Jean 6, 5 nous rapporte cette histoire bien connue. Quand il va y avoir la multiplication des pains, ayant levé les yeux, Jésus, et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Il sait tout par avance. Mais justement, il veut éprouver notre foi. Il veut voir si nous voulons rester attachés à lui. Élie a éprouvé Élisée dans le début de son ministère pour savoir quelle était sa détermination. Quelle est notre détermination ? Ce soir, Élisée choisit de prendre au mot Élie. Tu m'as appelé, je suis resté attaché à toi. Amen. Parce qu'on décide de suivre Jésus, parce qu'on décide d'être attaché à sa maison, être attaché, bien sûr, à sa parole, à la communion que nous avons avec lui par la prière. Il va arriver, et c'est sûr, qu'il va y avoir du découragement. Qu'il va y avoir même des paroles de découragement. Qu'il va y avoir des personnes qui vont nous décourager. On voit dans le texte que les fils des prophètes vont décourager Élisée. Alors on ne sait pas s'ils sont jaloux, parce que l'élection s'est portée sur Élisée et non pas sur eux. Élisée qui n'était pas un fils de prophète, Élisée qui était là et qui labourait les bœufs qui étaient l'héritage paternel, Élisée qui avait peut-être aucune prédisposition mais qui a été choisi. Et eux, les fils des prophètes, c'est pas n'importe qui. ils n'ont pas été choisis par Élie. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a du découragement, peut-être que dans votre famille on vous décourage parce que les membres de votre famille ne sont pas chrétiens et ne comprennent pas votre engagement, votre zèle, votre volonté, votre détermination. Peut-être même que c'est dans l'église qu'on vous a découragé. Et ça arrive. Ça arrive malheureusement, un frère qui ou une sœur qui maladroitement, sans vouloir même le faire exprès, va peut-être nous décourager ou en tout cas ne va pas nous encourager et ça peut peut-être blesser. Ces choses-là doivent arriver. L'ennemi également se sert du découragement. Oh combien il se sert du découragement. Et on voit la réaction d'Élisée. On voit la réaction d'Élisée qui est très bonne. Il va faire taire. Il va dire « Taisez-vous ». Taisez-vous. Il fait taire les paroles de découragement. Alors, si on est découragé dans l'église, parfois, il vaut mieux pas dire taisez-vous verbalement, mais il vaut mieux briser ces paroles. Ces paroles qui ne communiquent pas la vie. Il vaut mieux les briser, que ces paroles ne puissent pas trouver écho dans notre cœur. Et bien pire, trouver écho dans notre esprit. Et après, on va être découragé, on va peut-être tout remettre en question. J'aurais pas dû ou j'aurais dû faire ceci parce qu'une parole a touché mon cœur, parce qu'elle a impacté ma vie. Je brise cela. Taisez-vous, paroles de découragement. Parce que si les hommes peuvent s'en aller, et c'est vrai, ce qu'il disait, c'était pas faux. Élie allait s'en aller, c'est une réalité. Et il disait, en fin de compte, tu vas te retrouver seul. Et parfois, même les paroles de découragement, elles sont peut-être vraies, mais elles font mal quand même. Elles sont peut-être vraies parce qu'elles ne sont pas données avec l'amour. Et les prophètes, les fils des prophètes, ne l'ont pas donné avec l'amour. Au lieu de dire, écoute, on sait que tu vas te retrouver seul maintenant dans ton ministère, tu sais ce qu'on va faire, Élisée, on va prier, on va se mettre à genoux, on va demander à Dieu qu'il t'aide. Là, c'était une parole qui reflétait la vérité, mais donnée différemment. N'est-ce pas? Non. Sais-tu que aujourd'hui ton maître est enlevé du dessus de ta tête? Oui, je le sais, mais je fais taire ces choses-là. Oh, c'est vrai que Élisée va se retrouver seul, mais pas complètement, parce qu'on n'est jamais seul. Amen. Amen. Alors quelqu'un qui peut-être vit dans la solitude dira, c'est facile à dire. Ça, c'est facile à dire, mais moi, quand je rentre, il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'attend. Il faut que je me fasse à manger. D'ailleurs, j'ai même plus envie de faire à manger. D'ailleurs, j'ai même plus goût de ces choses-là, parce que la solitude. Alors, il y a des fois où le Saint-Esprit me porte, où il y a peut-être une semaine de prière particulière à l'église, où je suis renouvelé, mais au quotidien, la solitude est là, et parfois, elle est pesante. Et ô combien j'aimerais que le Saint-Esprit puisse imprimer ça dans nos cœurs en lettres de feu, et que ce soit vrai pour nous. Nous ne sommes jamais seuls. Amen. Amen. C'est une réalité. Nous ne sommes jamais seuls. Oui. Et c'est ce que avait compris Élisée. L'alliance de Dieu Bethel envers nous est réelle et effective. Ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas juste pour faire beau dans un message, ce n'est pas pour toucher juste la corde émotionnelle et sensible de nos vies, c'est une réalité. Il y a des personnes que je connais, des mamies qui sont seules, mais qui ont une profonde communion avec le Seigneur, qui ne sont jamais seules en réalité. On a des exemples aussi dans les évangiles, on se souvient de Anne, 82 ans, qui attendait de voir le Messie et qui servait Dieu comment? Sur l'estrade en train de chanter? Non, elle était là dans le jeûne et dans la prière. Amen. Et ça, c'est un service. Et c'est le premier service. C'est là où Dieu nous veut en premier, dans le jeûne et dans la prière. Et croyez-moi, les 82 ans de l'époque, ce n'était pas les 82 ans de maintenant. Hein. C'était difficile, mais elle était là, fervente dans la prière. Elle n'était pas seule. Et Élisée, sachant que c'est vrai, Élie va partir, il va y avoir une présence en moins. Mais on sait que parfois, quand il y a une présence en moins, il y a la présence de Dieu qui redouble. Amen. Qui se fait bien plus sentir à nos cœurs. L'alliance de Dieu envers nous, on continue notre itinéraire. Nous amène à être victorieux. Amen. Je passe par la repentance, je traite alliance avec Dieu, je suis une nouvelle créature, il y a des épreuves, mais je suis victorieux. Amen. Il nous est dit que Élisée et Élie vont passer par Jéricho. Et ô combien Jéricho est connu pour ses forteresses imprenables, pour cette bataille qui va être livrée d'une manière tellement particulière. Je pars de l'alliance vers le lieu de la victoire, Jéricho. Là où, en fin de compte, il va falloir être pratique. Là où la théorie va devoir être pratique, un exercice pratique. J'ai noté passer de la connaissance à la maintenance pour nous apprendre justement à dépendre de Dieu. Dieu éprouve notre patience. Amen. Et il veut qu'au travers de l'épreuve, notre patience puisse produire du fruit. Comme le dit Pierre dans sa première épître au chapitre 1er, l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Et la patience, la joie dans l'épreuve, parce que nous regardons non pas les difficultés présentes du moment, mais nous regardons à Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est facile de dire les épreuves. Les épreuves, nous le voyons comme Jéricho. Et nous voyons que c'est possible que ces épreuves-là, que ces murailles-là puissent tomber, que ces montagnes-là puissent être déplacées. Et chacun dans nos vies, nous avons nos lots d'épreuves. Nous avons notre lot de murailles, notre lot de montagnes. Mais c'est un exercice pratique. Il met des exercices pratiques sur notre route, le Seigneur, pour nous faire grandir spirituellement, pour que nous soyons des adultes. Vous savez comment Dieu nous apprend l'amour ? En mettant des gens peu aimables sur notre route. Le faire aiguise le faire. Amen. Vous savez comment Dieu nous apprend la compassion ? Ben, il nous donne parfois, nous, d'avoir besoin de quelqu'un, de solliciter quelqu'un, et de rentrer peut-être en soi-même et de s'humilier un petit peu pour que quelqu'un manifeste la compassion. Alors je vais pouvoir à mon tour tendre la main parce qu'on m'aura tendu la main. Dieu nous apprend ces choses-là. Passer de la théorie à la pratique, c'est la volonté de Dieu. Amen. Pour notre bon développement, pour que nous passions par Jéricho et que nous soyons victorieux. Vous savez, il n'y a rien de pire que de savoir et de ne pas pratiquer. C'est vrai ça, c'est terrible. Peut-être qu'à l'école, sur votre bulletin de trimestre, on vous a dit « capacité à des capacités, mais ne s'en donne pas la peine ». Hein, vous avez peut-être vécu des choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir de telles appréciations. Il sait, mais il ne le fait pas. Il a des aptitudes, mais il ne s'en donne pas la peine. Et je pense que le pire, c'est pour les parents. Ils voient l'enfant qui peut le faire, mais par faute de volonté, par fainéantise, excusez-moi le terme, ne se donne pas la possibilité de réussir. C'est terrible. Et les travaux pratiques de Dieu sont essentiels dans nos vies. Elle nous demande et elle nous donne de grandir et d'être des adultes spirituellement. Vous savez, je pense que dans toute église, il y a parfois des petites peccadilles qui sont là. Et on voit des caractères parfois d'enfants. Alors, je ne vous connais pas, je me permets de le dire. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ben, je partirai aussitôt, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans chacune des églises, on voit parfois des caractères. On a envie de dire, mais honnêtement, travaillons d'un même pas. Hein, même si nous ne sommes pas d'accord, comme le dit Paul aux Philippiens, je crois, c'est pas grave, travaillons d'un même pas. Ayons les regards fixés sur la même chose. Ayons les regards qui regardent ensemble vers un point commun, vers le fait de faire des disciples, d'attendre le retour de Jésus, d'être une église sans tache ni ride. Et parfois, on est là dans des petites choses qui sont là, qui viennent polluer nos vies, qui viennent parfois polluer même l'église ou un groupe de personnes dans l'église, semblable à la mouche là qui vient polluer l'huile du parfumeur. Ouais. C'est terrible. Hein. Dieu veut, par nos travaux pratiques, que nous puissions grandir. Dieu veut par Jéricho que nous puissions être des soldats pour lui. Amen. Je pars avec toi. Je ne te quitterai pas. Je sais que tu vas me donner d'être victorieux. Et puis voyez-vous, à Jéricho, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une chose qui va être façonnée. C'est l'obéissance. L'obéissance. Parce que faire la guerre, comme ils sont en train de la faire, ou comme ils l'ont fait à Jéricho, c'était du jamais vu. Tourner une fois par jour pendant 7 jours, sans parler, et 7 fois le 7e jour. S'il fallait une obéissance stricte, rigoureuse du peuple. Et ça, les soldats ont pu se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Josué là ? Là, il a perdu la raison. On n'a jamais fait la guerre comme cela. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un siège là, devant Jéricho, leur empêcher d'être approvisionnés, peut-être trouver une faille dans la muraille, mais tourner sans rien dire comme cela. Mais ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? Peut-être des choses nouvelles que Dieu veut nous apprendre aussi. Moi, je pense que en tournant autour de Jéricho, ils ont dû voir ces murailles. Et non pas dans l'idée que ces murailles étaient de plus en plus grosses, parce que quand on fixe nos yeux sur le problème, souvent notre problème y grossit de plus en plus, vous savez. Mais là, c'était dans le but de dire, regarde, tais-toi, écoute. Écoute ce qui se passe derrière les murailles. Il y a une ville et je veux te la donner. Et c'est ce que Dieu veut dire aussi à nos vies. Regarde le problème, mais ne regarde pas que le problème, ne t'arrête pas juste à la difficulté présente, mais regarde à ce qu'il y a derrière. Je veux te donner cette ville, je veux te donner de la réussite, je veux que ces murailles puissent s'écrouler et que tu puisses le voir. Mais en attendant, je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu ne remettes pas tout en question. Je veux que si je te donne un ordre, tu puisses l'obéir à la lettre, avec exactitude, et peut-être même te taire. Le faire sans rien dire, te taire, juste obéir. Et ça, c'est difficile, hein, parfois, de juste obéir. On peut se dire, mais ça rime à rien. Justement, en plus, tourner en rond. Ils étaient là et tournaient en rond. Et j'imagine peut-être les soldats qui, le soir, après la journée, se retrouvaient autour d'un feu pour partager avec leur famille, se dire, mais on est là, on tourne en rond. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce qu'on fait, les amis, mais on tourne en rond. Et ô combien c'est péjoratif, parfois, même dans nos vies, on peut se dire, mais je tourne en rond, Seigneur, ça ne sert à rien ce que je fais. Et en plus, tu me demandes de me taire. Mais nous, on connaît la fin de l'issue. Nous, on connaît l'issue, on connaît la fin de l'histoire. Et c'est ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est qu'on connaît toujours l'histoire, mais les personnes qui le vivaient, Eux, à ce moment-là, ils ne savaient pas comment ça allait finir. Jonas qui se suicide, est-ce qu'il savait qu'il allait avoir un gros poisson qui allait venir, qui allait le sortir de là, le renvoyer sur les plages de Ninive et qu'il allait connaître le plus grand réveil de l'histoire? Il ne savait pas, il voulait juste en finir avec la vie. Nous, on connaît toujours l'issue, c'est vrai. Abraham, alors qu'il est là en train de présenter son fils Isaac, il ne sait pas que Dieu va retenir sa main. Il se dit, pour là, voilà, c'est fini, il va mourir, j'espère que Dieu pourra le ressusciter. Il ne sait pas toutes ces choses-là. Nous, on sait l'issue. Et on aimerait parfois connaître l'issue de notre vie. On aimerait connaître l'issue de l'épreuve. Mais justement, ce ne serait pas agir avec sagesse. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui au travers de Jéricho, au travers de cette étape, au travers de ce bon itinéraire. Peut-être que ta vie ne ressemble pas à un bon itinéraire en ce moment. Peut-être que c'est difficile, mais sache que parce que ta vie est entre ses mains, c'est un bon itinéraire quand même. Amen. Alléluia. Amen. L'issue, c'est l'obéissance, c'est la victoire. Amen. Jéricho, d'ailleurs, signifie ville des palmiers. Signifie repos. Le palmier dans la Bible, c'est le symbole du repos. Et ô combien parfois nous avons besoin du repos après l'épreuve. Mais ce qui est miraculeux, c'est qu'on trouve le repos parfois dans l'épreuve, au sein de l'épreuve, on trouve le repos. Exode 15, 27 nous dit, après être passé par Mara, vous savez, le peuple sort d'Égypte, la mer Rouge s'ouvre, ils traversent comme cela, et puis c'est merveilleux, ils sont libres, sauf qu'ils n'ont aucune ressource, ils arrivent à Mara, l'eau est amère. On sait que Moïse va donc jeter le bâton, et puis que l'eau va devenir douce, et ensuite il va y avoir Élim. Après Mara, après les murmures, après l'eau amère, il y a Élim, le repos. Et après l'épreuve, il y a le repos. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un temps d'épreuve, mais dans quelques mois, quelques semaines, peut-être même quelques années, tu te retourneras et tu diras « Merci Seigneur pour ces temps d'épreuve. Aujourd'hui, je suis dans le repos, mais je suis façonné. Tu as changé ma façon de foi au travers de l'épreuve. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, presque une pour chaque tribu, on pourrait dire, et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Après le désert, c'était l'eau, c'était l'abondance. Le repos vient après la victoire, après Jéricho. Exode 15 nous parle du repos, comme je disais, de l'eau amère de Mara. Et après Jéricho, on voit que Élie retourne au Jourdain avec Élisée. On voit qu'il y a ce retour d'où ils sont sortis. On voit et on pourrait assimiler ça au fait qu'un chrétien qui est devenu mature spirituellement, un chrétien qui a d'abord pensé à lui-même, à s'asseoir dans cette vie spirituelle, à bâtir sa vie sur de bonnes bases, à pouvoir retenir à Gilgal quand il le faut, à pouvoir réaliser que cette alliance est là et que cette alliance est vraie même au temps de l'épreuve. Un chrétien qui va pouvoir dire, même s'il y a des murailles, même s'il y a une montagne devant moi, je veux faire confiance à Dieu, je ne veux pas baisser les bras parce que je sais qu'il est avec moi, ce chrétien-là va pouvoir retourner dans le Jourdain et devenir le chrétien passerelle. Le chrétien qui permet à ceux qui ne connaissent pas Dieu de passer de l'autre côté, au travers de la croix de Christ, au travers du rachat des péchés, au travers de l'action de l'Esprit dans les vies. Alors on va être ces chrétiens passerelles, amen, qui vont permettre que justement ces autres personnes puissent passer le Jourdain. Alors on aimerait qu'il y en ait beaucoup. Alors on aimerait que nos églises soient remplies. Mais là aussi, Dieu nous demande d'être patient, de l'écouter, de lui faire confiance pour que d'autres personnes puissent aussi le connaître. Amen. Amen. Maintenant, retourne, répands la bonne nouvelle, la bonne odeur de Christ. Et c'est important de le faire avec ce bon témoignage, avec cette conscience renouvelée, avec ces bonnes habitudes spirituelles, parce que parfois, et même si Dieu nous donne de pouvoir témoigner, il faut qu'on puisse être capable de nourrir ces personnes. Si demain, c'est un ami qui vient à l'église, il va être nourri, c'est vrai, de par les prédications, de par la lecture de la Bible, mais étant un nouveau-né, étant un bébé spirituel, il va compter sur nous comme tuteur, et il faut que nous-mêmes, nous puissions nous remettre en question. Ça me fait penser à une chrétienne qui me disait que dès lors, elle a commencé à faire l'école du dimanche, et bien, elle s'est mise à plus lire la Bible. Alors, on peut dire que c'est pas très bien, qu'il fallait qu'elle le fasse avant, mais c'est quand même bien. Quand on va enfanter quelqu'un, ben on va se dire « je suis responsable », donc Dieu va me demander de pouvoir dire pas n'importe quoi, et je dois être d'abord ce chrétien mature, spirituel, pour pouvoir enfanter. Et moi j'ai l'impression que parfois on n'enfante pas, parce qu'on n'est pas capable. Et que Dieu nous dit d'abord, pense à toi, d'abord grandis, d'abord arrête. T'imagines, tu vas faire venir quelqu'un chez toi et puis d'un coup tu vas te mettre à critiquer ton frère, ta sœur. Mais quel exemple ! C'est des paroles de mort plutôt que des paroles de vie. Règle d'abord ce problème, sois renouvelé intérieurement par le Saint-Esprit, apprends à lire la Bible, à la connaître et alors tu pourras enfanter et alors je vais te donner de pouvoir enfanter. Amen. Et pas l'inverse. Ensuite, Élisée et Élie avant de passer le Jourdain, il nous est dit que Élie va dire à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ça, c'est merveilleux. On aimerait le Seigneur nous dire, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Peut-être l'entendre d'une voix audible. Mais je crois qu'il nous le dit. Il nous dit la même chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je crois que si nous avons cette vie sainte, cette vie qui cherche la pureté, cette vie qui cherche à plaire à Dieu, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne puisse pas nous bénir. Nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité parce que nous voyons qu'il y a des épreuves et Jésus n'a pas caché. Il a dit, celui qui veut me suivre, ben, qu'il porte sa croix, il y aura des tribulations, on vous mènera devant les tribunaux, mais prenez courage, je serai avec vous. Il n'a pas mis de côté le fait qu'il y aura des difficultés, il n'a pas dit, venez me voir, tout va bien se passer, suivez-moi, votre vie va être merveilleuse. Mais il nous demande aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est une réalité. Et bien sûr, si c'est selon la volonté de Dieu, et selon pas forcément notre volonté, Dieu nous bénit. Et puis on voit cette réponse ambitieuse d'Élisée. J'imagine Élisée, ce jeune homme, il se dit, cette question-là, c'est une fois dans ma vie qu'on va me la poser, et je ne vais pas passer à côté. Amen. On voit l'ambition, on voit peut-être même, quitte à un peu piquer Élie, parce que quelque part ça peut toucher Élie dans son orgueil. Hein. Élie qui se dit, je vais laisser une trace, je vais laisser 7 miracles, et c'est déjà pas mal, et voici ce qu'il me demande lui, une double portion. On va plus se souvenir d'Élisée qu'Élie, il aurait pu penser cela, mais c'est un homme de Dieu. Amen, il s'en moque. Tant pis, même si la génération qui suit est davantage bénie. Amen, alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui est bénie. C'est son nom qui est glorifié. Et ce que tu me demandes, il dira, eh ben, c'est difficile. C'est difficile. Mais Élisée me fait penser aussi à cette anecdote que j'ai relevée d'une petite fille qui avait l'habitude d'aller à cette petite supérette. C'était il y a bien longtemps. Et à l'époque, il y avait ces bonbons encore sur le comptoir, là où il y avait la caisse. Et cette petite fille était tellement radieuse, tellement jolie, que le marchand, sans hésiter, il la connaissait bien. Et il prend le bocal de bonbons comme ça, il le dévisse et il lui dit, tiens, prends des bonbons comme ça. Il voulait lui faire un cadeau. Alors cette petite fille, toute gênée, elle prend juste un bonbon comme ça. Et puis le monsieur lui dit, non, prends-en plus, prends une poignée. Alors elle le regarde tout souriant, puis elle dit, est-ce que vous pouvez la prendre vous, la poignée? Il dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, bah parce que vous avez une main plus grande. Amen. Tant qu'à faire. Ce que demande Élisée, il a raison. Tant qu'à faire. Et encore, il est limité. Il aurait peut-être dire une triple ou une quadruple portion de ton esprit, mais une double, c'est déjà pas mal. Amen. Et Élie dira, chose difficile. Ce que tu demandes, c'est difficile. Parfois, ce qu'on demande à Dieu, c'est vrai que ça peut paraître difficile, point de vue humain. C'est vrai. Une chose difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen, c'est ce qui réjouit mon cœur ce soir. C'est que ce n'est pas impossible. Il y a des bons mais dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Élie dira, mais si tu me vois, si tu me vois quand je suis en train de partir, alors cette chose-là te sera accordée. Et là, je me dis quand même, Élie, il y a un petit peu un paradoxe au début de la lecture et à la fin. Parce qu'au début de la lecture, tu dis, Élisée, reste là, reste de côté, ne me suis pas. Et maintenant, tu dis, si tu me vois. Si tu me vois. Autrement dit, en fin de compte, c'était véritablement un test, parce qu'il fallait qu'Élisée reste attaché à Élie. Il fallait qu'il puisse voir Élie partir comme cela, enlevé dans un char de feu, pour que la bénédiction puisse être effective dans sa vie. Et je pense que pour voir ces choses-là, voir Dieu agir dans notre vie, il faut qu'il y ait un attachement. Amen. Un attachement particulier à sa personne. Non pas dans le but de recevoir, mais juste parce que nous l'aimons. Juste parce que nous sommes bien en sa présence. Amen. C'était le plan de Dieu qu'Élisée puisse rester attaché à Élie. C'est ce que Dieu voulait, qu'ils soient là tous les deux et puis que le char de feu passe au milieu, les sépare et qu'ils puissent crier et quelque part montrer toute l'affection qu'il avait pour cet homme. Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Je pense qu'il est bon aussi parfois de montrer aussi l'affection que nous avons les uns pour les autres et ne pas attendre le dernier moment. Parfois on attend le dernier moment quand les personnes sont à l'extrémité là sur leur lit de mort pour leur dire combien elles ont de l'importance pour nous. Nous puissions le faire aussi simplement dans l'amour fraternel. Amen. Une étape supplémentaire pour Élisée. C'est une étape supplémentaire dans cet itinéraire. Élie part. Il part mais il n'a pas laissé sans rien. Il ne l'a pas laissé sans rien, il nous est dit que le manteau va lui être laissé. Et le manteau, bien sûr, c'est le symbole de ce revêtement. le symbole de ce revêtement pour nous chrétiens, le Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin d'être revêtus de cette puissance d'en haut. Et je crois que nous le sommes, simplement parfois nous n'en sommes pas conscients. Pas toujours conscients qu'il y a ce revêtement dans nos vies. Bien sûr, ce revêtement ne se fait pas n'importe comment. Ce revêtement de puissance, il ne se fait pas n'importe comment. D'ailleurs, Jésus, au début des évangiles, quand il est tenté par le diable, il nous dit que d'abord il va recevoir la puissance et ensuite il va être revêtu de puissance. Deux choses différentes. Et nous avons besoin d'être revêtus, mais d'abord d'être conscients que notre vie doit être conforme à ce qu'il demande. Parfois, nous cherchons le revêtement de puissance sans avoir une vie conforme à ce qu'il demande, sans peut-être ne pas passer par Gilgal, avoir oublié de demander pardon, sans peut-être avoir renouvelé cette alliance fraîche et nouvelle. Amen. Quand il y a une alliance qui est faite entre un homme et une femme pour la vie, il y a tellement cette fraîcheur, cet amour qui est là, ce zèle qui est là. Et je pense qu'il doit être renouvelé à chaque instant dans nos vies pour que ce revêtement de puissance puisse être effectif aussi. Amen. On voit Élisée qui franchit un palier. Il va déchirer ses vêtements et maintenant il va se revêtir du manteau d'Élie. Je pense que dans nos vies, parfois nous sommes appelés à franchir des paliers, à parfois connaître même des réformes. C'est un mot un petit peu à la mode, ça, connaître des réformes. Se dire, ce vieux vêtement, ça fait des années que je suis là, c'est vrai, je suis fidèle, c'est vrai, je lis la Bible, c'est vrai, je la connais même sur le bout des doigts, c'est vrai, je suis fidèle à l'église à chaque fois, mais j'ai besoin peut-être d'un nouveau défi, j'ai besoin peut-être d'un nouveau revêtement, j'ai besoin de me revêtir peut-être, non pas d'une nouvelle image, mais comment dire, de ce revêtement qui est là, important, avec les défis qui en découlent. Et c'est ce qui était là dans la vie d'Élisée. Il a connu une réforme. Et je pense que nous sommes appelés à vivre et à franchir des paliers, à laisser parfois un peu notre vieil habit, à le déchirer, à le dépoussiérer et à se dire, maintenant je dois passer à l'action. Maintenant je dois passer à l'action. Et dans ma propre vie, je vis des choses comme ça. Alors c'est vrai, vous dites, vous êtes pasteur, c'est normal, tu es amené à vivre le défi, à te remettre en question, mais même en tant que chrétien, je raisonne comme un chrétien et je me dis qu'au début de ma conversion, ce qui brûlait en moi, c'était le fait de pouvoir amener quelqu'un à l'évangile. C'était tellement merveilleux et je veux que ces choses-là ne puissent pas s'estomper, mais avec le temps, parfois, notre vêtement a besoin d'être déchiré. Ce vieux vêtement a besoin, on le connaît tellement, on a tellement l'habitude. Il y a peut-être même des habitudes qui ont besoin d'être changées parfois. Ne serait-ce que parfois la place qu'on obtient dans l'église, ne serait-ce que les chaises, l'endroit où on s'assoit à chaque fois. Parfois, moi, j'aimerais bien m'asseoir là où des personnes ont l'habitude de s'asseoir. C'est vrai, mais je ne le fais pas, parce que je ne peux pas le faire. Mais parfois, vous voyez ce que je veux dire, on a besoin d'être dépoussiéré parfois dans notre vie. Et c'est important de le vivre. Amen. Passage à l'action. Et en fin de compte, il y a eu cette étape. On peut se souvenir également de Josué qui, au début, versait de l'eau. Mais après, il a été appelé à être celui qui va faire entrer le peuple dans le pays promis. Je pense que nous devons vivre ces choses-là. Ramasser le manteau, laisser le manteau de la proximité avec Dieu. Du courage, d'Élie. L'héritage est là, et l'héritage est là. Et c'est un héritage que vous pouvez laisser au niveau du bâtiment, mais quel héritage aussi pouvons-nous laisser à nos enfants? Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, de ceux qui vont avoir le bon itinéraire, de ceux qui vont passer par les bonnes étapes. Amen. Les fils des prophètes, qui n'ont pas été très gentils avec Élisée, vont dire verset 15, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. C'était visible. Et ils ne l'ont pas dit à Élisée. On voit que l'esprit d'Élie repose sur toi. Parfois, on a l'impression que, de par notre témoignage, il n'est pas aussi pertinent que l'on aimerait. Mais croyez-moi, les personnes nous voient vivre. J'aimerais dire, ils nous regardent vivre. Et si tu as l'impression, peut-être, que ton témoignage ne parle pas de lui-même, que peut-être les personnes ne voient pas une différence, détrompe-toi, parce qu'ils te voient vivre. Et ils te regardent vivre. Maintenant, à nous d'être conformes, justement, à ceux qui ont revêtu ce manteau et cet esprit. Amen. Dans nos vies. C'est ce que nous voulons, un bon itinéraire. Un itinéraire où nous n'allons pas perdre du temps, nous n'allons pas nous tromper, nous n'allons pas gaspiller notre temps, nous n'allons pas être cet itinéraire qui va peut-être engendrer des disputes, mais au contraire, cet itinéraire qui nous amène à l'essentiel, ces étapes importantes. Amen.